C'est l'heure du journal. Anne Fauquemberg, bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Alors que l'accord historique sur le nucléaire iranien est toujours suspendu ce soir à une décision de Donald Trump, le président américain est empêtré dans le scandale de propos racistes tenus hier lors d'une réunion sur l'immigration à la Maison-Blanche. Du siège de l'ONU à New York à celui de l'Union africaine à Durban en passant par l'Europe et les Caraïbes, l'indignation est planétaire, précision de Marie-Pierre Véraud au début de ce journal. En Turquie, la nature des purges qui ont suivi le coup d'État manqué de 2016 est en question. Près de 2000 fonctionnaires suspendus de leur travail viennent d'être réintégrés. Explication d'Alexandre Billette dans un instant. La bataille d'Idlib en Syrie met à l'épreuve l'alliance entre Moscou et Ankara pour faire baisser la violence dans le pays. Les combats ont repris entre les rebelles et le régime de Damas, va nous dire Éric Biegala. En France, la crise du lait contaminé à la salmonelle s'étend à l'Union européenne. Le ministre de l'Économie élargit le rappel de produits à tous les lots fabriqués sur le site Lactalis de Cran en Mayenne. Nous entendrons Bruno Le Maire. Le parquet de Paris fait appel du non-lieu en faveur de l'unique suspect de l'attentat de la rue Copernic. Compte rendu à suivre de Camille Magnard et puis l'enquête du journal de 18h. Les dérives dans les formations organisées par les partis politiques pour les élus locaux. Aux États-Unis, c'est un pas supplémentaire dans l'outrance pour Donald Trump. Le président américain a beau nier avoir utilisé l'expression « pays de merde » pour qualifier plusieurs États africains, le Salvador et Haïti. Il soulève une indignation planétaire. L'ONU a jugé ce midi choquant et honteux les propos injurieux du président américain tenus hier à l'occasion d'une réunion sur l'immigration. C'était en présence de plusieurs parlementaires américains. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Anne.
De nombreuses voix s'élève également en Afrique contre ces propos du président américain.
Le Botswana a convoqué ainsi l'ambassadeur américain pour faire part de son mécontentement face à des propos hautement irresponsables, répréhensibles et racistes. L'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud, dénonce des mots extrêmement insultants, scandaleux pour le Soudan. Quand l'Union africaine rappelle, elle, que les États-Unis sont une nation construite par des immigrants et condamne des remarques rendues encore plus blessantes par la réalité historique du nombre d'Africains arrivés aux États-Unis comme esclaves. Alors sur les réseaux sociaux en Afrique, la sortie de Trump est bien sûr vivement commentée et dénoncée, mais beaucoup mettent aussi en cause leurs dirigeants qui prêteraient le flanc à un tel mépris. Au-delà de l'Afrique, le télé est général, vous le disiez, résumé par le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, ce ne sont pas seulement des propos vulgaires, c'est révéler la face la plus sombre de l'humanité, c'est justifier et encourager le racisme. Il n'est pas sûr d'ailleurs que la défense de Donald Trump adoucisse les réactions. S'il nie avoir employé l'expression « shithole countries », alors que plusieurs personnes présentes à la réunion maintiennent qu'il a bien prononcé ces mots et à plusieurs reprises, le président américain tweet qu'il ne veut pas que les États-Unis soient forcés d'accueillir des gens venant de pays abritant de nombreux criminels. Il assure vouloir défendre la sécurité du peuple américain, l'alliant donc à l'immigration, répète qu'il veut une immigration basée sur le mérite. En fait, au-delà des mots, quels qu'ils soient, la politique qu'il mène ou veut promouvoir distingue bien entre les pays. Réduction du rapprochement familial, abrogation du programme de protection des jeunes mineurs entrés illégalement aux États-Unis avec leurs parents. Il a aussi mis un terme au statut de protection temporaire concernant plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens, de Nicaraguayens, de Soudanais. Et cette semaine, ce sont quelques 200 000 Salvadoriens qui ont appris qu'ils le perdraient, ce statut, fin 2019, sans oubliez bien sûr les décrets contestés qualifiés de racistes visant à interdire l'entrée du territoire américain à des ressortissants d'un certain nombre de pays, majoritairement arabes ou musulmans.
Merci Marie-Pierre Véraud pour vos précisions. Donald Trump qui devrait normalement rendre public ces prochaines heures sa décision de réimposer ou non des sanctions économiques contre l'Iran dans le cadre de l'accord sur le nucléaire en vigueur depuis 2015. Un accord défendu par la France et l'Union européenne qui tente de faire bloc face au président américain. Les États-Unis qui traversent aussi de nouvelles tensions avec la Turquie, deux pays pourtant partenaires au sein de l'OTAN. Ankara a prévenu cet après-midi ses ressortissants de risques d'arrestation arbitraire en Amérique du Nord. Le ministère des Affaires étrangères turc qui a publié un communiqué en réponse à des menaces du même type émises par Washington. La Turquie qui vient aussi de réintégrer 1800 fonctionnaires dans son administration. Des personnes qui avaient été limogées après le putsch manqué du mois de juillet 2016 et qui ont finalement été blanchies. Alexandre Billette.
Ces fonctionnaires étaient accusés d'avoir utilisé une application de messagerie mobile et qui servait de moyen de communication pour les putschistes et leurs soutiens. Selon les autorités, plus de 200 000 personnes en Turquie auraient utilisé ce logiciel qui s'appelle Bylock. Maison des Sombres, la justice a annoncé que des milliers de ces suspects avaient en fait téléchargé Bylock à leur insu, et qu'ils auraient été bernés par le réseau de Fethullah Gulen et qu'il fallait donc revoir leur condamnation. Et voilà pour la version officielle qui pourrait concerner non seulement ces 1800 employés, mais plus de 10 000 personnes, des fonctionnaires qui pourront retrouver leur poste, qui vont toucher le salaire auquel ils avaient droit durant leur chômage forcé, mais pas de compensation pour les mois sans travail. Cette annonce soulève plusieurs questions sur la nature de ces purges, sur le sérieux des enquêtes qui ont visé tous ces employés et qui vont réintégrer notamment le ministère de l'Éducation et le département de la Sécurité d'État, deux secteurs particulièrement touchés par les purges. En revanche, il ne faut pas y voir nécessairement un signe de faiblesse du pouvoir turc. Le décret qui a annoncé le retour de ces salariés précise en même temps que 260 employés seront licenciés de la fonction publique.
Correspondance à Istanbul d'Alexandre Billette. Toujours concernant la Turquie, le président Erdogan s'est entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de la situation politique en Syrie. Avec l'Iran, ces deux pays sont à l'initiative du processus d'Astana pour tenter de mettre fin aux combats qui durent depuis maintenant 7 ans en Syrie et qui se poursuivent dans la province d'Idlib, située justement près de la frontière turque. C'est d'ailleurs l'une des rares provinces encore détenues par l'opposition. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir.
Hier, les rebelles syriens ont lancé une contre-attaque pour contenir les avancées du régime de Damas.
Oui, Anne, plus précisément, il s'agit en fait pour les rebelles de prendre à revers cette offensive du régime vers la base aérienne d'Abu Ardour. Ce sont des brigades affiliées à une toute nouvelle alliance tactique baptisée Révolte contre la tyrannie et qui regroupe des forces rebelles soutenues par la Turquie ou certains pays arabes qui mènent le combat. Alors cette offensive qui opère sur le flanc ouest du régime n'a pas réussi à prendre plus de quelques hameaux et pour le moment n'empêche pas les troupes fidèles à Bachar al-Assad de poursuivre plein nord leur poussé en direction de la base aérienne d'Abu Ardour. Là, sur cette ancienne base aérienne, ce sont les brigades djihadistes de l'alliance Hayat Tahrir al-Sham, dominée par l'ancien front al-Nosra, qui tiennent la position et depuis 48 heures, les combats avec le régime y sont acharnés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un bon réseau d'informateurs sur le terrain et dans tous les camps, donne un bilan d'au moins 117 combattants tués en deux jours et de plusieurs centaines de blessés. Confrontés donc à la résistance des djihadistes proches d'Al-Qaïda au nord, attaqués sur leur flanc ouest par la rébellion, le régime doit aussi compter avec l'État islamique dont les djihadistes tiennent encore une petite poche située sur leur flanc est. Avant-hier d'ailleurs, l'agence Hamak, affiliée à l'État islamique, diffusait la vidéo de 4 soldats du régime faits prisonniers par l'État islamique. Les forces pro-régime progressent donc, mais lentement, et depuis ce matin, elles ont redoublé, avec leur allié russe, la fréquence et l'intensité de leurs bombardements aériens. On rappellera que tout ceci se déroule dans une zone dite de désescalade, où les Russes, les Iraniens et les Turcs sont censés garantir un cessez-le-feu qui tenait à peu près depuis le mois d'octobre.
Merci Éric Biegala pour vos explications. En Tunisie, les autorités ont arrêté 150 personnes la nuit dernière en marge des manifestations contre l'austérité. Selon Amnesty International, cela porte à 780 le nombre d'arrestations depuis le déclenchement. En début de semaine, des troubles sociaux, mouvement à l'initiative du collectif de citoyens Qu'est-ce qu'on attend ? Ce collectif a lancé un nouvel appel à manifester cet après-midi à Tunis et dans plusieurs villes du pays. Un appel à manifester qui n'a toutefois pas beaucoup mobilisé. L'analyse de notre correspondante à Tunis, Maureen Mercier.
400 manifestants à peine, les jeunes militants n'ont de loin pas réussi à réunir autant de monde qu'ils espéraient. Les conditions météo n'ont pas joué en leur faveur, certes, le début des manifestations s'est fait sous une pluie battante. La loi des finances 2018 fait pourtant quasiment l'unanimité contre elle dans le pays. Si le collectif peine à mobiliser, c'est parce que les gens font l'amalgame entre ce mouvement, pourtant pacifique, et les heurts entre jeunes, souvent très jeunes tunisiens et policiers, les pillages, les saccages qui ont eu lieu ces trois dernières nuits dans plusieurs villes du pays, en marge des manifestations. L'enjeu pour le mouvement, au risque de s'essouffler, c'est de communiquer, de convaincre la population qu'il n'a aucun lien avec ces actes de violence. Face à lui, un adversaire de taille, l'État, le gouvernement, qui joue l'intransigeance et qui va jusqu'à nier l'existence même du mouvement. Il n'y a pas de manifestation, mais des casseurs. Déclaration aujourd'hui du porte-parole du gouvernement. C'est une stratégie dangereuse. Nier son existence, c'est souffler sur une colère et une frustration très présentes au sein de la population. Bon nombre de Tunisiens ne peuvent pas faire face face aux augmentations de prix prévues dans ce budget 2018.
Les précisions à Tunis de Maureen Mercier. Le soulagement en Europe après l'accord de principe dévoilé ce midi en Allemagne pour la formation d'un gouvernement. Après des jours de tractations, les conservateurs de la chancelière Merkel et les sociaux-démocrates du SPD ont abouti sur un document de 28 pages qui fixe le cadre des futures négociations pour renforcer notamment la zone euro en collaboration avec la France. Emmanuel Macron s'est dit heureux et satisfait de cette entente utile et attendue par l'Europe. Les précisions à Berlin de notre correspondant permanent Cyril Sauvageau.
C'est une première réponse à la main tendue d'Emmanuel Macron. Si la grande coalition se concrétise, l'Allemagne est prête à réformer la zone euro pour mieux la protéger des turbulences. C'est ce que dit le document signé par la CDU, la CSU et le SPD qui avance quelques pistes concrètes. Un budget d'investissement pour la zone euro et la création d'un fonds monétaire européen sous contrôle parlementaire. Angela Merkel n'entre pas dans le détail, mais son message est clair, l'Allemagne a compris qu'elle doit bouger.
Nous sommes convaincus que l'Union européenne a besoin d'un nouveau départ. Nos trois partis sont d'accord sur ce point et nous avons travaillé ensemble en toute confiance sur le sujet. Pendant les négociations. Je crois que nous pourrons trouver des solutions communes avec la France pour y parvenir.
En l'état, il ne s'agit pourtant que de modestes concessions. Le futur gouvernement Merkel ne prend aucun engagement sur plusieurs propositions phares de la France. Union bancaire, projet de budget commun ou création d'un ministère des Finances de la zone euro. Comme le souligne l'économiste Henrik Enderlein, proche du SPD, le diable est dans les détails. Le plus gros chantier reste à venir pendant la prochaine phase des négociations.
Et cet accord de coalition justement doit encore être approuvé par un congrès du SPD dans 10 jours, puis par un vote des militants sociaux-démocrates. La chancelière, qui est sur la route d'un quatrième mandat à la tête du pays, aimerait conclure les négociations d'ici à la mi-février. En France, c'est par une porte dérobée que le président de l'entreprise Lactalis est entré au ministère de l'économie en début d'après-midi. Emmanuel Beignet est venu s'expliquer sur le scandale du lait contaminé à la salmonelle sur le site de Cran en Mayenne. Scandale qui s'étend à l'Union européenne avec un cas de salmonellose contracté en Espagne et un autre cas soupçonné en Grèce. À l'issue de la réunion, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonce que Lactalis va désormais reprendre tous les produits sans distinction, tous les produits fabriqués sur le site mayenné de Lactalis.
S'agissant des rappels, Lactalis reprendra tous les produits de lait infantile fabriqués sur le site de Cran, quelle que soit leur date de fabrication, dans tous les lieux de commercialisation, en particulier la grande distribution et les pharmacies. L'objectif de cette décision radicale est simple, éviter les retards, les difficultés dans le tri des lots et le risque d'erreur humaine. S'agissant de la modernisation du site de Cran, le président de Lactalis communiquera publiquement sur les causes de la contamination dès qu'elles seront établies. Lactalis fera ensuite tous les investissements nécessaires sur le site de Cran pour garantir la sécurité sanitaire du site et éviter que ne se reproduise une telle contamination. Les salariés concernés par la réduction d'activité sur le site et placés en situation de chômage technique seront indemnisés à 100% par Lactalis de leur perte de rémunération.
Des propos recueillis par Guillaume Gaven. En Martinique, 300 personnes ont été évacuées après plusieurs coulées de boue d'origine volcanique au niveau de la commune du Prêcheur. La préfecture a activé sa cellule de crise. Et puis c'est un blocage total qui s'annonce dans les prisons françaises à partir de lundi. Un appel de l'UFAP UNSA Justice, le syndicat majoritaire appuyé par la CGT pénitentiaire, a été lancé. Cela fait suite à l'agression hier de 3 surveillants par un détenu djihadiste dans le Pas-de-Calais au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Le retour dans l'actualité ce soir d'un attentat perpétré il y a près de 40 ans. En 1980, l'attentat devant la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés. Un seul et unique suspect dans cette enquête, il s'agit d'Hassan Diab, un homme d'origine libanaise et canadienne, âgé de 64 ans. En décembre dernier, le parquet avait requis son renvoi devant une cour d'assises, mais ce matin, les juges d'instruction en charge de l'affaire ont prononcé un non-lieu et ordonné sa libération immédiate. Camille Magnard, bonsoir.
Bonsoir Anne.
Affaire qui a encore rebondi cet après-midi puisque le parquet a décidé de faire appel de ce non-lieu en faveur du suspect.
Oui, un appel assez logique finalement puisque le même parquet avait requis au mois de décembre le renvoi d'Hassan Diab en procès d'assises, réquisition qui n'avait donc pas été suivie par les deux juges d'instruction qui concluaient aujourd'hui que les éléments à charge ne sont pas suffisamment probants et qu'il y en a d'autres, surtout nouveaux, à décharge qui tendent à confirmer qu'Hassan Diab se trouvait bien le jour de l'attentat à l'université de Beyrouth où il passait des examens. Mais le parquet fait donc appel et ça atténue un peu la première réaction d'indignation qu'avait ressentie à l'annonce du non-lieu le président du CRIF, Francis Khalifa.
C'est une bonne nouvelle que le parquet fasse appel, surtout pour les familles et pour la mémoire des victimes. Parce que de voir finalement que le seul suspect dans ce dossier, 38 ans après les faits, et après une incarcération de près de 4 ans, aujourd'hui, le libérer sans procès aurait été pour les familles, je crois, une douleur supplémentaire. Et je crois que c'est bien qu'il y ait un procès. C'est bien pour la mémoire des victimes et c'est bien pour les familles.
Alors, on va quand même tempérer les propos du président du CRIF sur deux points. D'abord, l'appel formulé par le parquet ne remet pas en cause la libération immédiate d'Hassan Diab. Et ensuite, appel ne veut pas forcément dire qu'il y aura bien un procès in fine. Mais l'instruction, c'est vrai, va être reprise par la chambre d'instruction de la cour d'appel qui devra se prononcer sur un nouveau non-lieu. Et donc, on se retrouverait dans une impasse de l'enquête 38 ans après, un retour à la case départ ou bien sur, cette fois, un renvoi. Pour de bon en procès d'assises.
Merci Camille Magnard pour votre compte-rendu. Il est 18h15 sur France Culture. Le dossier de cette édition concerne les abus dans le domaine de la formation destinée aux élus locaux. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
Vous avez enquêté sur ce marché qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros par an et qui entraîne de nombreuses dérives.
Oui, alors ce qu'on constate, c'est que tous les partis politiques créent leur propre organisme de formation. La République En Marche et les Patriotes de Florian Philippot sont en train de s'y mettre, alors qu'il existe près de 200 organismes agréés, dont beaucoup sont indépendants. Et on peut du coup se demander si la formation n'est pas parfois devenue un outil de financement des partis. Un exemple, les instituts organisent des ateliers de formation au moment des congrès et des universités d'été, mais pour être présents, ils doivent payer pour une salle ou un stand jusqu'à 20 000 euros. Les crédits de formation des collectivités, c'est de l'argent public, atterrissent donc in fine dans les caisses de ces partis. Et ça pose tout de même un léger problème, reconnaît le secrétaire général de l'Association des maires de France, Philippe Laurent.
Bien sûr, lorsque cela se produit, ça n'est pas en totale cohérence avec l'esprit qui a présidé à la mise en place de la formation des élus.
Mais tous les partis le font.
Oui, tous les partis le font. Oui.
Mais ça pose pas un problème pour le contribuable ?
Si, ça peut poser problème. Mais enfin, les sommes en cause sont quand même relativement faibles par rapport à d'autres abus qu'on peut constater au niveau de l'État, au niveau de la haute fonction publique d'État, par exemple. Je ne sais pas. Non, mais vous trouvez ça grave ?
Bon, alors passons sur ces petits abus, pas si graves. Après tout, si l'argent sert vraiment à former les élus, on a découvert que certaines sessions de formation permettaient aussi de passer du bon temps, comme à Avignon pendant le festival, où le PS organisait chaque année ses rencontres de la culture, au programme le matin des ateliers de travail, puis l'après-midi et le soir des visites, des expos, des spectacles au Palais des Papes et au Corégie d'Orange, le tout eh bien, aux frais des collectivités. Mais rien de choquant à cela, selon Pierre Bourguignon, cet ancien député socialiste préside le Conseil national de la formation des élus.
C'est de la formation. J'ai été moi-même intervenant à Avignon sur la culture. Je le sais, c'est comme
là,
ça que vous le savez.
On voit qu'il y a aussi participation à des spectacles. Ça fait partie de la formation des élus, ça ?
Il se trouve que je suis allé plusieurs fois et je suis allé pour intervenir. J'en ai profité pour voir un spectacle, puis je suis reparti. Un vrai élu local, il n'a pas le temps de passer des jours et des jours et des jours et des jours.
Hein. Bon, alors on en a trouvé pourtant de vrais élus locaux qui passaient toute la semaine à Avignon.
Alors, il y a un autre type de dévoiement des crédits de formation. Parfois, ces crédits sont utilisés pour former les candidats aux élections.
Oui, c'est une dérive que le Sénat a pointée du doigt dans un rapport d'information dont voici un extrait.
Les principales demandes de formation s'expriment surtout à la veille des échéances électorales, c'est-à-dire à la veille des élections municipales, cantonales et régionales, ainsi qu'en tout début de mandat.
Et le phénomène se confirme dans les chiffres. L'année précédant les dernières municipales, par exemple, certains instituts ont doublé leurs recettes.
Mais ces organismes, ils ne sont pas contrôlés ?
Alors si, il existe un Conseil national de la formation des élus, qui est une sorte de gendarme. Le problème, c'est que dans ce conseil, les conflits d'intérêts ne sont pas rares. Je vous donne un exemple. Le président de l'Association des maires ruraux de France, Vanik Berberian, il était dans le même temps membre de cette haute autorité autorité et administrateur d'un institut, l'IFED, qui est lié au MoDem. On l'a interrogé sur cette double casquette. Sa réponse nous a plutôt surpris.
Je ne suis pas administrateur de l'IFED.
Vous l'avez été ?
Peut-être, je ne sais pas.
Vous ne vous en souvenez plus ?
Non.
L'Institut de formation des élus démocrates. J'ai vu votre nom dans le conseil d'administration.
C'est ça. Donc, au moment où l'IFED a déposé sa demande d'agrément, j'étais effectivement dans le conseil d'administration.
Bon, alors, pour éviter tout conflit d'intérêts ou toute situation pas très claire, des associations anticorruption préconisent une solution radicale, interdire aux partis politiques d'investir le marché de la formation et enfin couper le cordon.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La mort de Françoise Dorin à l'âge de 89 ans, parolière, auteure dramatique et romancière, elle a connu un grand succès dans les années 70. On lui devait notamment les titres Que c'est triste Venise, mise en musique par Charles Aznavour, N'avoue jamais, qui représenta la France au concours 1965 de l'Eurovision, et puis beaucoup d'autres titres interprétés par Juliette Gréco, Dalida, Claude François, Michel Legrand et même Céline Dion. La météo de votre samedi 13 janvier 2018, ça va s'éclaircir un petit peu dans les régions nord à partir de la fin de matinée, temps ensoleillé partout ailleurs, et les températures 2 à Strasbourg, 4 à Lille et Lyon, 5 à Paris, 7 à Brest et jusqu'à 9 à Marseille. Journal préparé avec François-Charles Domergue, à la technique, c'était Jean-Guilain Meige. Thank you.